Je vais réouvrir aujourd'hui, enfin maintenant plutôt, ma Bible au psaume 115, sur lequel j'aimerais que nous restions quelques instants. Être croyant aujourd'hui dans notre société pose de manière récurrente la question d'expliquer pourquoi on est croyant. Ce n'est pas nouveau, hein. Et dans ce psaume, on voit déjà qu'il y a une confrontation entre des gens qui disent au psalmiste « Où est ton Dieu ?» et qui adorent des idoles, et puis le psalmiste lui-même qui affirme sa foi. C'est un mécanisme qu'on retrouvera aussi dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre qui dit à ses lecteurs « Il faut se tenir prêt à présenter notre défense devant quiconque nous demande de rendre compte de l'espérance qui est en nous. » Nous approchons, encore un peu loin, la période de Noël, et puis après Noël, il y aura Pâques, et après, la Pentecôte, enfin toutes ces fêtes qui témoignent de choses, vous n'étiez pas au courant que Noël c'est bientôt, qui témoignent de ces choses extraordinaires que Dieu fait. À Noël, c'est une naissance totalement surnaturelle, celle de Jésus. À Pâques, une mort, oui, mais une résurrection totalement surnaturelle aussi. À la Pentecôte, rien de plus surnaturel que le Saint-Esprit lui-même qui vient en nous. Alors oui, nous sommes à expliquer des choses à nos contemporains, et c'est loin d'être simple. Allez expliquer à quelqu'un que Jésus est né de manière, a été conçu de manière miraculeuse. Beaucoup de gens en rient. Allez expliquer à quelqu'un que Jésus, après être mort et mis au tombeau, est ressuscité. Beaucoup de gens n'y croient pas. C'est quand même assez particulier comme discours. Comment expliquer ce que nous venons de vivre avec en nous commémorant l'acte de Jésus? Il nous pardonne nos péchés, lui qui a vécu il y a 2000 ans. Ce sont des éléments qui ne sont pas faciles à expliquer. Et le psalmiste, à son niveau, dans son contexte, avait le même problème. Je l'ai lu tout à l'heure, cette question, où est donc leur Dieu? Nous l'entendons aujourd'hui. Si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de souffrance dans le monde. Vous l'entendez, ça, quand même. Si Dieu est bon, il ne peut pas, il ne permettrait pas toute la violence qu'on voit aujourd'hui. Alors, le psaume 115, pour faire un petit peu de littérature, le psaume 115, dans la traduction grecque, l'ancienne traduction grecque, la Septante, est joint au psaume 114. Le partage des psaumes, je ne sais pas si vous êtes bien au courant de ça, moi, pas trop. Je ne peux pas les détailler, mais quand même, c'est important de savoir que les différentes éditions de la Bible ne comptent pas les psaumes de la même manière, suivant que ce sont des éditions catholiques ou protestantes. Et là, le psaume 114 est joint au psaume 115 dans la traduction de la Bible, de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans ce psaume 114? Il est écrit les exploits de Dieu. Dieu a ouvert la mer. Ça c'est l'allusion à la sortie d'Égypte, de l'Exode. Dieu a arrêté le flot du Jourdain pour que le peuple passe. Et puis, alors, il y a des choses que je ne comprends pas bien. Dans le psaume 114, il est écrit que « Qu'avez-vous, montagne, verset 6, pour bondir comme des béliers, et vous, colline, comme du petit bétail ?» J'ai regardé les Vosges. J'ai pas vu. Ils bondissaient pas comme des béliers. Certainement imagé ce que dit le psalmiste, d'ailleurs comme beaucoup de psaumes, il y a de l'image, beaucoup d'images. Et là, ça veut dire qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent, qu'on ne sait pas forcément décrire. Alors l'auteur du psaume utilise une image un peu irréelle, un peu forte, enfin beaucoup, très forte. Quand les montagnes bougent, en général, c'est plutôt un tremblement de terre, hein, donc on n'aime pas. Mais là, on imagine une scène totalement surnaturelle. Ben oui, c'est lui notre Dieu, surnaturel, inimaginable, incompréhensible. La seule explication qui vaille devant tous ces événements racontés par le psaume 114, c'est que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut. C'est ainsi que commence le verset 15, alors le psaume 115, pardon, pas tout à fait, hein, non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Et puis un peu plus loin, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. J'aime beaucoup cette phrase parce que quelque part ça me conforte dans l'idée que je ne comprends pas tout ce que fait Dieu. Il est au ciel, loin de moi, à la fois il est proche, nous le savons, mais là il est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Rien ne peut arrêter sa volonté. Rien ne peut empêcher qu'il fasse ce qu'il veut. Grandeur de Dieu. Je pense que la louange que nous pratiquons ce matin, les chants que nous avons chantés, vont nous aider pendant cette semaine à reprendre cette idée de manière centrale dans nos vies. Dieu est grand et mérite notre louange. C'est ce qui est écrit ici, dans ce psaume, avant d'aller confronter aux gens qui pratiquent les idoles, dont ils se moquent un peu d'ailleurs, même beaucoup. D'abord, on reprend l'idée centrale. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, nous, et c'est une des raisons pour lesquelles le culte a beaucoup de sens dans mon esprit, c'est que nous remettons l'Église au milieu du village, si je puis dire. Nous mettons la grandeur de Dieu en pilier de nos pensées, de notre manière de voir les journées qui s'approchent, nous mettons cette grandeur de Dieu comme une base, comme un pilier, comme je l'ai dit, pour affronter le quotidien, nous façonner. Grandeur de Dieu qui a ouvert la mer devant son peuple, là je fais de nouveau allusion à l'Exode, qui a retenu le Jourdain devant son peuple. Grandeur de Dieu qui a ouvert le chemin de notre terre promise à nous, le pays de sa grâce, la terre du pardon, le royaume de Jésus. Grandeur de Dieu qui fait que je me retrouve frère avec des gens très différents de moi, mais nous sommes frères. Ça, c'est que Dieu qui peut faire ça. Grandeur de Dieu qui fait de nous un peuple bigarré, divers, mais uni et un seul peuple. Grandeur de Dieu qui relève les plus affaiblis, qui les remet sur pied, qui est capable de pardonner le plus détestable d'entre nous. Je ne citerai pas de nom. Grandeur de Dieu qui peut rendre sa dignité au plus méprisé d'entre nous. Dieu est grand. Pensée centrale. Grandeur du Dieu de l'Exode, grandeur du Dieu de l'Évangile. Et c'est le même. Alors, verset 2, « Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ?» Quand nous sommes confrontés à ces questions, il vaut peut-être mieux ne pas essayer de donner toutes les explications du monde avec parfois des raisonnements un peu alambiqués. Nous n'avons pas réponse à tout, je le disais tout à l'heure. Et je pense que nous sommes beaucoup plus crédibles en disant « je ne comprends pas tout » du Dieu auquel je crois, plutôt que de vouloir tout expliquer et de manquer de pertinence. Avouons plutôt que nous ne comprenons pas, je vais faire l'expérience de l'attraction terrestre, pardon, avouons plutôt que nous ne comprenons pas ce Dieu en qui nous croyons. Il y a dans notre bibliothèque des milliers de pages qui tentent d'expliquer qui est Dieu. Et en même temps, on n'arrive jamais à comprendre, à tout expliquer, à tout justifier. Et cette phrase du psaume « Notre Dieu est au ciel », je l'aime bien pour ça. Ce psaume nous suggère de préférer la confiance en Dieu dont nous ne comprenons pas tout à la fabrication d'idoles que nous comprenons trop bien. Il s'agit de recevoir la révélation de Dieu dans la Bible, même si nous ne comprenons pas tout, là encore. Il s'agit de recevoir cette révélation de Dieu comme vraie, avec son lot de questions et de mystères, plutôt que de construire notre propre petite chapelle, notre propre petit monde, notre propre petit Dieu. Laissons-nous dépasser par ce Dieu en qui nous croyons, et que cela ne nous dérange pas. Si Dieu, nous le comprenions de A à Z, mais ce ne serait pas Dieu. Nécessairement, Dieu nous dépasse. Les versets 4 à 7, se moquent des fabricants d'idoles et des adorateurs d'idoles. C'est une description implacable de l'inertie, de l'inefficacité, de la mort, ou du moins de l'absence de vie de ces idoles, de leur inutilité. Elles ne servent, d'après ces lignes-là, à rien, sinon à distraire ceux qui les adorent d'adorer le grand Dieu, celui qui est au ciel et qui fait ce qu'il veut. Le psalmiste peut-être nous donne un exemple à ne pas suivre quand même, quand il vient de décrire les idoles avec leur bouche, leurs yeux, leurs oreilles, leur nez, leurs mains, leurs pieds, et leur dit, il leur ressemble, verset 8, il leur ressemble ceux qui les font, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Pas très sympa là, quand même. Peut-être là je propose qu'on laisse de côté ce psaume dans son contexte et qu'on n'aille pas se moquer, nous, des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est pas l'exemple que Jésus nous donne. Mais cette tirade, entre guillemets, nous invite à poser un regard averti, quand même, sur les systèmes de pensée que nous avons dans notre monde. Permettez-moi d'élargir la lecture de ce psaume à notre contexte à nous. Nous, on n'a personne qui va fabriquer des idoles et se courber devant elles. Du temps du Nouveau Testament, tenez, nos premiers frères et premières sœurs, ils avaient affaire au polythéisme romain, au culte de l'empereur. Ils avaient affaire à des pratiques de l'homosexualité qui nous choqueraient énormément aujourd'hui, même dans la société environnante, même pas forcément dans nos églises seulement. Les chrétiens de Colosse, par exemple, ont lu sous la plume de Paul la phrase que je vais vous lire. « Prenez garde que personne de vous ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide. » Selon la tradition des humains, selon les éléments de ce monde, et non pas selon le Christ. Donc on voit déjà, les premiers chrétiens avaient affaire à des philosophies trompeuses. Alors, c'était le temps des grands philosophes, ou des grands courants philosophiques, et il ne faut pas jeter tout à la poubelle. La philosophie est quelque chose de très utile, très intéressant, indispensable même à nos vies. Mais là, il s'agit de courants de pensée trompeurs. Ce texte, les premiers chrétiens avaient affaire à des choses qui pouvaient les emporter loin de leur foi, et c'est toujours le cas aujourd'hui, bien sûr. Il y avait l'esclavage, tenez par exemple, au premier siècle, je le cite souvent, les chrétiens avaient affaire à l'esclavage. Et leur dynamique était de considérer, on le voit sous la plume de Paul encore, comme un frère, celui qui par ailleurs est esclave, frère d'un maître. Ça devient compliqué, c'est un paradigme, un modèle de société qui vient choquer, et puis ils devaient être minoritaires. On les accusait d'être idolâtres, parce qu'ils n'adoraient pas pratiquaient pas le culte de l'empereur. Enfin voilà, c'était pas forcément plus confortable que pour nous, et puis il y en a beaucoup qui ont payé de leur vie. On les accusait et on les jetait dans l'arène. Aujourd'hui encore, il y a des persécutions à l'encontre des chrétiens, on le sait, malheureusement. Mais dès le début, c'était comme ça. Aujourd'hui, ce texte nous donne un défi permanent. Oui, nous n'avons pas des idoles en bois ou en pierre, mais nous avons des systèmes, des choses qui sont injustes, contre lesquelles il faut lutter. Lors de la dernière guerre, un certain nombre de chrétiens, toutes confessions, ont désobéi au pouvoir de Vichy pour protéger des juifs, par exemple, dans notre pays. Il faut aujourd'hui démasquer des théories racistes qui existent, ou xénophobes. Dans nos églises, il faut vérifier sans cesse, et c'est ce que vous devez faire quand je vous parle, les enseignements qui sont donnés, et avoir une oreille critique de ce qui vous est dit, comme les juifs de Béret, on les cite souvent, hein, les juifs de Béret qui... C'était une localité qui s'appelait Béret, dans laquelle il y avait des juifs. Et quand Paul vient, il vérifiait ce que Paul disait pour voir s'il ne racontait pas des bêtises. Faites pareil. Nous sommes sans arrêt à devoir vérifier notre fondement. Et pour ça, il faut connaître la Bible, les amis. Il ne faut pas la lire tous les 15 jours. Enfin, je veux dire, un verset tous les 15 jours. Si en 15 jours, vous arrivez à lire la Bible, à chapeau. Hein, mais... C'est important que notre foi soit charpentée, que nous réfléchissions à ce que nous croyons. Bien sûr, il y a de la modestie, Dieu est au ciel, on ne comprend pas tout, mais quand même, si nous voulons avoir un peu de discernement avec tous les courants qui nous entourent et qui nous traversent aussi, il y en a certains qui sont excellents, hein. Il ne faut pas tout rejeter. Mais justement, il faut savoir, il faut comprendre, et c'est exigeant. Et nous avons besoin d'une vie de communauté pour ça. Nous avons besoin de discuter entre chrétiennes et chrétiens, dire « Mais qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que tu penses de cela ?» Et moi, je pense que ça. « Ah, mais toi, tu penses, mais non, mais tu as oublié ça. » On a besoin de discuter. La communauté chrétienne se renforce de cette manière. Gagne en sagesse. Partageons ces questions dans les groupes de maison. Interrogeons-nous, dérangeons-nous pour comprendre comment réagir, comment agir dans une société qui, il est vrai, est complexe, hein. Dieu est pour Israël un secours et un bouclier, est-il écrit trois fois, verset 11 notamment, verset 10 aussi, puis verset 9. Il est leur secours et leur bouclier. Nous sommes concernés, hein, il n'y a pas que le peuple d'Israël, l'ancien peuple d'Israël du temps de ce psaume. Nous pouvons nous associer à cela. Vous qui craignez le Seigneur, mettez votre confiance dans le Seigneur, il est leur secours et leur bouclier. Nous appelons en écho à ce psaume la bénédiction de Dieu sur nous, sur le peuple juif aussi, bien sûr, mais sur nous aussi. Nous prétendons que la bénédiction ultime de Dieu, c'est par Jésus et c'est le pardon des péchés. C'est ce qui était dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'était une prière, je crois que c'était une prière de quelqu'un d'entre vous. Ce n'est pas juste qu'on est en bonne santé, qu'on va bien, hein, c'est là que personne se reconnaîtra, mais c'est qu'on est pardonné de nos péchés, promis à la vie éternelle. Cette bénédiction, cette paix, cette manière prudente de considérer notre monde, c'est ce que nous enseigne ce psaume. Nous pouvons faire confiance à Dieu, même si nous ne le connaissons pas complètement. Et je vous propose, dans la semaine qui vient, au lieu de chercher à tout expliquer, de vivre la foi. Tout simplement, qu'elle déteigne sur notre comportement, qu'elle déteigne sur nos paroles, sur la manière dont nous regardons les gens. Que ce Dieu soit honoré, et je reviens au verset 1, qu'on soit honoré par notre comportement, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne-nous gloire. Alors vous voyez, c'est une position un petit peu mélangée que je vous propose. D'un côté, je vous dis, il faut étudier pour discerner ce qui, dans ce monde, nous semble aller dans le bon sens et du reste. Et puis de l'autre, il faut avouer que nous ne comprenons rien de ce Dieu qui nous dépasse. Alors, trouvez la bonne position entre ces deux idées-là que je vous donne. Je pense que c'est une manière, je pense, utile de lire ce psaume. Peut-être qu'il y a aussi un encouragement, et je m'arrêterai avec cette idée. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il fait des choses au-delà de ce que nous pouvons comprendre, mais dans le bien aussi. Dans le bien. Pas forcément, voilà, on ne peut pas le comprendre, mais on a foi. Mais non, mais on a foi et on va certainement devoir supporter encore longtemps cette situation de petitesse, de modestie obligatoire. Mais moi, je me dis, mais c'est tant mieux si je ne connais pas tout de ce Dieu-là, parce qu'il me réserve donc de bonnes surprises. Prenez les récits qui parlent du ciel, de la maison du Père, les récits de l'Apocalypse notamment. Vous comprenez quelque chose? Moi, je ne comprends rien de ce qui est écrit. Des rues pavées d'or. Je me suis dit une fois, c'est glissant. Enfin, je comprends rien, en fait. Et je lui ai dit, bon Seigneur, tu es au-delà. Il y a une vision, les visions de Jean, tu es au-delà de ce que je, je comprends. Alors, moi, quand j'y serai, là, je vais dire, ah, c'était ça que ça voulait dire. Et je comprends. Oh, merci. Quelle belle surprise on aura. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut, y compris des choses que j'aurai plaisir à découvrir le moment venu. On a un Dieu qui est extraordinaire. Ici, Dieu est au ciel et il est leur secours et leur bouclier. C'est depuis le ciel qu'il est secours et bouclier. Il bénira ceux qui craignent le Seigneur, les petits et les grands. Voilà, ce Dieu qui est au ciel, il n'est pas au ciel pour nous oublier. Il est au ciel pour nous regarder de sa position de Dieu, de créateur, de maître de l'univers. Et Dieu est bon, et Dieu est amour. Il saura nous surprendre encore et toujours. Et puis oui, c'est vrai, il y a des moments difficiles à traverser. C'est vrai, je ne suis pas le dernier à les connaître. On en connaît un certain nombre, des épreuves, des choses qui nous font pleurer. Oui, il y en a. Ouais. Bah, raison de plus pour nous souvenir que Dieu saura nous surprendre au moment voulu et en bien. Prions. Nous te remercions, Seigneur, et nous voulons être maintenant avec cette idée centrale que tu es grand, que tu es puissant, que tu es amour, que cela préside à nos pensées, à nos journées pendant toute cette semaine, que la louange que nous t'adressons aujourd'hui gouverne nos pensées pendant le reste de la semaine. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es au ciel, tu fais ce que tu veux, et tu nous aimes, et tu sauras nous conduire jusqu'à chez toi. Amen.